sur 89.4 FM. Et c'est l'heure de Radio Cartable.
La radio des enfants d'école d'Ivry.
Nous sommes les CM1 de l'école Maurice Thorez B et notre maîtresse s'appelle Marion.
Nous sommes dans le studio de Radio Cartable. Je m'appelle Azriel et je suis avec Elijah.
Salut tout le monde.
Et Daoud.
Coucou, bienvenue.
Avant de vous présenter le sommaire de l'émission, nous voulions vous parler d'un sujet très important.
Oui, cette semaine n'est pas comme les autres. C'est la semaine de la mémoire.
On rend hommage à tous ceux qui ont été déportés dans les camps de concentration.
La majorité d'entre eux sont morts. Dans notre école, il y a une plaque avec les noms de 4 élèves qui sont morts en déportation pendant la Deuxième Guerre mondiale.
On a eu la chance de rencontrer Madame Grenard, qui a été une enfant cachée. Elle nous a appris énormément de choses.
Oui, il faudrait une émission entière pour tout vous raconter.
On le fera à une autre occasion. Place au sommaire.
Voici le sommaire.
À 14h10, nous entendrons les actualités d'ici et d'ailleurs.
Cette séquence est réalisée par les CE1 de l'école Rosaline Franklin et ils ont concocté une sélection de bonnes nouvelles pour la nouvelle année.
Ils vont nous parler, entre autres, de la chanteuse américaine Taylor Swift, de l'éthologue Jan Goodall. Cette revue a été préparée à l'aide du journal Un jour, une actu.
À 14h20, c'est l'heure de l'école Libris. La séquence est réalisée par les CM1, CM2 de l'école Maurice Thorez B.
Tiens, j'ai l'impression que je les connais, eux.
Mais oui, Daoud, ce sont nos camarades de CM1, CM2. Ils ont lu le 6 albums et avant d'élire leurs préférés, ils vont nous présenter aujourd'hui les 3 derniers livres.
Un bout de papier prend la route et les origines du prince Django.
À 14h35, ce sera la séquence passeur et passeuse de poèmes. Une séquence réalisée par les CE1 de l'école Rosaline Franklin. Vive la poésie!
Enfin, à 14h40, vous entendrez le reportage dans mon cartable.
Cette séquence a été réalisée par les CM2 de l'école Rosaline Franklin. Ils ont interviewé le journaliste de Radio Maxime Basile.
Ah, c'est un collègue alors?
Oh là là, Daoud et ses blagues. Peut-être un jour. Maxime Basile est venu expliquer le métier de journaliste à ses élèves.
C'est pour préparer le cycle d'interviews sur les enfants de leur ville.
Et voilà, on vous a tout dit. J'espère que ce programme va vous plaire.
Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous voulez sur radio-cartable.ovatron.org.
Alors, à l'occasion de la semaine de la mémoire, on a au téléphone des élèves de la classe de CM2 de l'école Maurice Thorez B. Et ces élèves nous appellent pour faire une annonce, je crois. Bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que vous vous appelez?
Moi, je m'appelle Sarah et moi, je m'appelle Lilia.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du travail que vous avez fait à l'occasion de la semaine de la mémoire?
Oui. Nous, les élèves de CM2 de l'école Maurice Thorez B, avons mené un projet sur la libération d'Ivry au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons été aidés par Aurélien du service des archives, Stéphanie et Joël de la médiathèque d'Ivry. En nous aidant de documents d'archives, nous avons écrit 5 textes qui décrivent les moments importants vécus par les Ivriens à cette époque.
Nous avons aussi vu une tension du directionnel du CESCO.
il l'aurait composé pour soutenir le moral des soldats français prisonniers et exilés dans des camps de travail allemands. 40 ans plus tard, un célèbre chanteur, Rachid Taha, l'a repris pour exprimer son amour de la France, et cette nouvelle version deviendra le symbole de la lutte contre le racisme. À notre tour, nous l'avons revisité pour exprimer notre attachement à Ivry et que cette chanson devienne un hymne à la paix pour le futur.
Nous présenterons samedi 27 janvier notre travail à la médiathèque.
Merci les élèves. Donc, est-ce qu'il y a un horaire à la médiathèque ce samedi? Comment va se dérouler cet événement?
Oui, à 15h.
Donc tout le monde peut se rendre à 15h à la médiathèque d'Ivry, à la médiathèque centrale, pour vous écouter et écouter votre travail?
Oui, c'est ça.
Mais écoutez, merci beaucoup de votre annonce. Et puis on a bien retenu que le 27, le samedi 27, à 15h à la médiathèque, on peut entendre parler de tout ce que vous nous avez dit. Donc merci beaucoup les élèves. Au revoir.
Je m'appelle Aylan.
Et moi, Mélina, nous sommes les élèves de la classe de CE1A.
Bonjour, je m'appelle Lina.
Et moi, Adem, nous sommes à l'école Rosaline Franklin.
Bonjour, je m'appelle Sita.
Et moi, Lucas, nous vivons à Ivry-sur-Seine. Voici notre revue des unes du mois de décembre.
Notre premier journal du mois parle de la torche olympique.
L'été prochain auront lieu les Jeux olympiques en France.
Nous venons d'apprendre que le premier porteur de la torche olympique sera le sportif grec Stefano Touskos.
La torche transportera la flamme olympique dès le mois d'avril sur des milliers de kilomètres.
11 000 personnes vont la porter jusqu'à son arrivée à Paris le 26 juillet.
Le 1er décembre, une nouvelle statue de cire est arrivée au musée Crévin.
C'est la statue de
Jane Goodall,
une scientifique anglaise qui a étudié les chimpanzés en vivant avec eux.
Il y a plus de 200 stars représentées dans ce musée.
La chanteuse Taylor Swift a été personnalité de l'année 2023.
C'est le magazine américain Time qui l'a désigné
parce qu'il bat tous les records dans le monde,
mais aussi parce qu'elle défend les droits de femmes et qu'elle apporte du rêve avec ses chansons.
Pour le dernier numéro de l'année, un jour une actu nous souhaite de joyeuses fêtes.
Ils ont évoqué plusieurs actualités positives.
La forêt d'Amazonie est mieux protégée.
Un nouveau télescope européen explore l'univers.
La France est championne du monde de handball.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un mois pour le revue de mois de janvier.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs. École Libris.
École Libris,
les livres
qu'il faut
lire.
Bonjour, nous sommes les CM1, CM2 de l'école Maurice Thorez B. Bienvenue pour la deuxième partie de notre rentrée littéraire. La dernière fois, nous vous avions présenté l'album « Comment naissent les arbres » et l'album « Frères ». Cette semaine, place à trois nouveaux livres. Bonne écoute à tous.
Le troisième livre de notre rentrée littéraire est donc un conte musical nommé « Les origines du prince Django ». Sa création est un peu particulière. En effet, au départ, il s'agissait d'un spectacle musical se nommant « La folle histoire du prince Django » monté par la compagnie du souffle aux cordes. Marie Estrade, membre fondatrice de la compagnie, a fait de ce spectacle un conte illustré par Zad pour le dessin des personnages, Emmanuela Dupont pour les décors et la mise en couleur. Le livre est accompagné d'un CD qui permet d'écouter l'histoire contée, bruitée et accompagnée de musique. Il est paru chez Utopique en mai 2023.
Ce conte nous plonge dans l'univers des tziganes. On suit le parcours de Laurence, une jeune femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Elle demande conseil aux femmes expérimentées qui l'entourent. Elle fait appel à la magie, mais rien ne fonctionne. Elle décide alors de se rendre chez Tchouna, une magicienne qui prédit l'avenir avec son ragoun. Que va lui révéler Tchouna ? Laurence réussira-t-elle à avoir un enfant ? Pourquoi sera-t-il si extraordinaire? Pour le savoir, écoutez ce conte.
L'histoire est aussi marquante que les musiques qui l'accompagnent. Nous sommes plongés dans l'histoire et dans l'univers tzigane. Leurs croyances, leurs rites, leur sens du partage et de la solidarité. Les illustrations de Manuela Dupont et de Zad sont douces et aux couleurs chaudes. Elles nous embarquent dans l'atmosphère du livre et nous les regardons inlassablement. Ce livre raconte les origines d'une légende de la guitare et du jazz, l'immense Django Reinhardt. Nous avons trouvé intéressant que l'histoire raconte ce qu'il s'est passé avant sa naissance et laisse déjà pressentir son extraordinaire destin. Le livre, qui peut être lu ou écouté, laisse le choix au lecteur ou à l'auditeur. Les musiques qui accompagnent le texte sont incroyables. Nous conseillons ce livre à tous à partir de 7 ans. Admirez-le, écoutez-le et plongez dans une bulle de jazz et de swing.
Et maintenant, voici un petit extrait du conte raconté par Marie Estrat.
Ma grand-mère m'a raconté. C'était l'hiver, il faisait froid. Circuler en roulotte avec ce brouillard était devenu trop difficile et la fatigue commençait à se faire sentir. Comme nous traversions un petit village du centre de la France, les habitants nous ont proposé leur hospitalité pour quelques jours. Les femmes, les enfants, les hommes et les bêtes allaient enfin pouvoir se reposer un peu. Rapidement, tout le monde s'est activé pour installer le campement. Et la petite roulotte rouge s'est retrouvée au milieu du champ. La petite roulotte rouge, c'était celle de Laurence. Depuis quelque temps, Laurence était bizarre. Elle avait l'air absente. Elle, d'habitude si gaie, sortait souvent de chez elle pour regarder tristement les nuages dans le ciel. Au bout d'un moment, Laurence a baissé les yeux. Elle s'est rendue compte qu'elle était entourée d'enfants, des grands, des petits, des garçons, des filles. Et en voyant le sourire de tous ces gamins qui n'étaient pas les siens, une larme s'est mise à couler sur sa joue. C'était donc ça, le problème de Laurence. Elle n'arrivait pas à avoir de bébé. On avait enfin compris. Alors, on s'est tous réunis et on a discuté. Que pouvait-on faire pour qu'elle ait un enfant?
On vous laisse découvrir la suite par vous-même.
Passons maintenant à la suite. Jusqu'à maintenant, nous vous avons présenté des albums et un conte. Le livre suivant est très différent. C'est un recueil de poèmes intitulé « Prendre la route ». Le poète est Michael Rosen et l'illustrateur Quentin Blake. Il est paru chez Gallimard Jeunesse en mai 2023. Michael Rosen, auteur et défenseur de la littérature de jeunesse, nous propose dans ce recueil un ensemble de poèmes sur la migration. Son recueil est découpé en quatre parties. Il commence par des poèmes évoquant sa famille et son quotidien lorsqu'il était enfant. Il parle ensuite de la guerre avant de se pencher sur le parcours de migration de ses proches et de lui-même. Enfin, il nous invite à suivre les traces des migrants d'aujourd'hui.
Ainsi, à travers ces quatre parties, famille et amis, la guerre, migrants et moi, reprendre la route, le poète nous plonge dans un univers douloureux mais empli d'espoir. Pour le découvrir, lisez, déclamez, vivez ses poèmes, dans l'ordre ou de manière aléatoire. Dans ce recueil, Michael Rosen reprend des poèmes qu'il a écrits sur sa famille juive polonaise, réfugiée à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, et s'ouvre sur les migrations du monde entier. Que ce soit les poèmes qui parlent de sa famille et de ses amis, ou ceux qui évoquent des migrants inconnus, ils sont tous particulièrement touchants et nous invite à réfléchir.
à la lecture, on ressent l'émotion, la douleur, mais aussi l'espoir que le poète veut encore avoir en l'humanité. Les illustrations sombres à l'aquarelle du grand et unique Quentin Blake rythment les poèmes avec force et interpellent le lecteur. On pourrait imaginer ce recueil dans un musée, les textes de Michael Rosen présentés aux côtés des illustrations de Quentin Blake.
Le livre s'ouvre sur une préface écrite par le poète lui-même. Elle est d'une grande force. À sa lecture, nous nous sommes toutes et tous sentis concernés. Ils nous retiendront longtemps. Ces trois premières phrases, la poésie est la migrante, celle qui voyage. La poésie est la témoin, celle qui écoute. La poésie est la survivante, celle qui persiste. Ce livre nous a bouleversés. Il s'adresse aux enfants comme aux adultes. Chacun le comprendra à sa manière, mais le message qu'il délivre est universel. Le poète nous appelle à réfléchir et à espérer un monde où on se tend la main et où nous sommes toutes et tous citoyens du monde. Un livre que nous vous invitons à parcourir encore et encore.
Nous allons maintenant vous dire trois poèmes que nous avons choisis dans le recueil.
Ceux qui viennent d'arriver. Mon père a débarqué en Angleterre depuis un tout autre pays. La mère de mon père a débarqué en Angleterre depuis un tout autre pays. Mais le père de mon père est resté là-bas. Alors, mon papa ici n'avait pas de papa. Et je n'ai jamais connu le papa de papa. Un beau jour de printemps, des affaires sont venues. De vieux papiers, de vieilles photos, et puis, ah oui, une grosse veste épaisse rêche à carreaux. Son ancien propriétaire était l'homme que j'aurais pu appeler grand-père. L'homme qui était resté là-bas. Mais j'ai gardé la veste, moi, et je l'ai portée, jusqu'à ce qu'elle soit tellement usée qu'on voyait à travers.
Absence, dans des trous, dans l'espace, sous le toit de ma vie. Un visage, rien de plus. Une absence dans ma vie. Elle et lui étaient là, sous mon toit dans ma vie. J'ai la place pour eux deux dans les mots de ma vie.
Arrivé. Les fusées se sont tues. Les bombes se sont tues. Le monde était cassé. Les gens étaient cassés. Des millions de personnes n'avaient plus de maison. Des millions de personnes étaient loin de chez elles.
L'une d'entre elles s'appelait Michael. Pas de père, pas de mère. Seul parmi des millions. Et maintenant, que faire? Il avait une adresse, il avait une cousine en Angleterre.
Alors un jour, peu après le silence des fusils, des bombes, quelqu'un a sonné à la porte d'une certaine Sylvia.
De toute la famille qu'elle avait eue là-bas, tout près des camps, il était le seul survivant. Et voilà qu'il se tenait sur le seuil, le seul à être venu.
Il est resté, il s'est installé. Et là où il a fait sa vie, c'est devenu chez lui.
À vous de découvrir le reste des poèmes.
Mein Kind, mein Tres, du fährst da weg, se sei.
Vous venez d'entendre une chanson yiddish,
Brieve der Mammen, écrite par Solomon Schmulewitz et interprétée par de multiples artistes comme une berceuse.
Le cinquième et dernier livre de notre sélection est un petit roman. Il se nomme Un bout de papier. L'autrice est Anne-Sophie Platt et il est illustré par Odette Barberousse. Il a été édité par la maison d'édition La Lucarne Indécente en juin 2023.
Ce roman raconte l'histoire d'une petite fille qui passe beaucoup de temps avec sa grand-mère. Un jour, elle trouve une lettre chez elle dans un tiroir et décide de l'interroger. Celle-ci se remémore alors son enfance, la Première Guerre mondiale, la rareté des lettres reçues qui étaient alors d'autant plus précieuses. Pour découvrir ce récit de vie, plongez-vous dans ce roman.
Ce roman nous a touchés. Anne-Sophie Platt utilise de jolis mots pour évoquer une période très difficile et les illustrations en noir et blanc, mais aussi en couleur d'Odette Barberousse, la mettent en image. La Première Guerre mondiale est abordée différemment. Le roman ne parle presque pas des combats, mais se centre sur la vie de ceux restés à l'arrière et de ceux qui partageaient les tranchées. Ils évoquent les liens qui se créent, la solidarité et l'importance des lettres pour les familles, mais aussi pour les soldats au front. Le livre étant un roman qui aborde un sujet difficile, nous le conseillons à partir de 8 ans, à tous ceux qui aiment les histoires de vie et l'histoire. Au-delà de la guerre, ce livre nous touche car il parle du lien entre une grand-mère et sa petite-fille et de la transmission des souvenirs de l'histoire à travers les générations. La narration, entre moments de dialogue et souvenirs rapportés, est également intéressante et donne du rythme au roman qui se lit rapidement. En bref, un joli roman à découvrir sans tarder.
Voici maintenant un très court extrait du roman.
Tous les mercredis, je passe la journée avec ma grand-mère. C'est notre petit rendez-vous. Il n'y a qu'elle et moi. Ce sont mes parents qui l'ont décidé. Et moi, j'adore. Ils préfèrent me savoir avec elle les jours où je n'ai pas école. Je crois qu'on se garde un peu toutes les deux. Je monte les escaliers qui grincent jusqu'à sa chambre. Elle a besoin de ses lunettes. On va faire une partie de Scrabble. Elle dit que c'est un bon entraînement pour être forte en orthographe. Quand j'ouvre la porte, ça sent toujours cette odeur bizarre. Un mélange de poussière et de naphtaline. Un vieux produit censé repousser les mites, mais aussi parfumer le linge. En entrant, je crie « Mamie, t'as laissé la lumière allumée ?» Je m'apprête à l'éteindre quand je remarque le tiroir ouvert. Comme je suis un peu curieuse, je vais faire fouiller. Je trouve un courrier qui semble assez ancien. Madeleine, La Chaume, 3 rue du Bourg. Étrange, je n'ai jamais entendu parler de Madeleine. Pourtant, mamie me raconte beaucoup d'histoires. C'est sûrement une vieille cousine. Je dévale 4 à 4 les escaliers avec les lunettes et l'enveloppe à la main. Mamie, j'ai trouvé ce vieux papier. C'est qui Madeleine? Et pourquoi tu gardes sa lettre?
Oh, c'est une longue et belle histoire. Ce sont toutes les premières nouvelles de mon père, ton arrière-grand-père, pendant la guerre.
Pour connaître tous ces souvenirs de guerre, lisez la suite.
Voilà, nous vous avons présenté les 5 livres de notre sélection. Il est maintenant temps de découvrir qu'a été le livre préféré de notre classe.
Il s'agit de...
Prendre la route
de Michael Rosen, illustré par Quentin Blake.
Cependant, nous tenons à dire que le vote a été serré. Tout de suite derrière, il y avait le petit roman Un bout de papier d'Anne-Sophie Platt et illustré par Odette Barberousse.
Comme le livre gagnant est un recueil de poèmes, nous ne pourrons pas vous le lire en entier. Mais dans la prochaine émission, nous vous inviterons à découvrir certains de ces poèmes que nous avons sélectionnés. Encore bravo au livre gagnant et à la prochaine!
Et d'ici là, n'oubliez pas de...
Lire, lire, lire!
École Libris!
École Libris,
les livres
qu'il faut
lire, lire, lire.
École Libris.
Thank you. notre poésie.
Le tour du spectacle. Il se tape sur la tête. Boum. Il se retape sur la tête. Boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. T'as besoin de comprendre.
Bonjour, je m'appelle Noam et je vais vous réciter la poésie Bonne année. Bonne année. Le Père Noël a rangé son tablier. Champagne et cotillon, la nouvelle année est arrivée. Roule galette, nous allons te manger. Les petits rois et les petites reines fêtent la nouvelle année. Elle est arrivée dans le froid et les gelées. Pour les plus chanceux, elle a revêtu son manteau immaculé. Pour cette nouvelle année, je te souhaite une bonne année et je t'envoie mille baisers. Annick Détailleur.
Bonjour, je m'appelle Safia et je vais vous réciter une poésie qui s'appelle Les secrets de la mer. Les secrets de la mer. J'ai trouvé des coquillages échoués sur une plage. Ils m'ont parlé à l'oreille, mais ils disent tous pareil. Bruit des vagues, bruit du vent. C'est lassant. J'aurais voulu qu'ils me chantent les histoires effrayantes. Des épaves englouties et dans leurs coques endormies, des coffrets de pièces d'or, des trésors. Corinne Albo.
Je m'appelle Essia et je vais vous réciter la comptine des six continents. Comptine des six continents. Sur le dos d'une antilope, je fais le tour de l'Afrique. Sur le dos d'une bourrique, le tour de l'Europe. À dos de yak qui galope, le tour de l'immense Asie. Sur le dos d'un poisson-cile, le tour de l'Océanie. Sur la vigogne au poil doux, le tour des deux Amériques. Sur le dos d'un manchot, le tour de l'Antarctique. Bernard Lorraine.
Les CM2 de l'école Rosaline Franklin ont étudié la phrase interrogative. Pour appliquer cet art de bien poser des questions, ils et elles veulent interviewer des personnes qui, par leur métier, contribuent à ce que la vie des enfants à Ivry soit la meilleure possible. Mardi 16 janvier, quelqu'un est venu les aider. Maxime Basile est journaliste à la radio. Il va travailler avec elles et eux sur le reportage et l'interview. Et aujourd'hui, Il répond aux questions des élèves sur son métier.
Reportage dans mon cartable.
Comment êtes-vous devenu journaliste?
Au départ, j'ai fait des études d'histoire. C'est pas obligé, on peut faire, il y en a qui ont fait des études de droit, d'autres qui ont fait des études scientifiques. Mais moi, j'avais fait des études d'histoire parce que j'aimais bien. Et après mes études d'histoire, j'ai travaillé un petit peu en Italie et après, j'ai passé les concours d'école. Les concours très difficiles hein, d'ailleurs et puis à la fin on en passe, moi j'ai passé 6 écoles et à la fin j'en ai eu 2 et je suis allé à Strasbourg pour faire mes études de journalisme et puis à la fin de ces études on a un diplôme de journaliste et puis après le vrai, c'est pas le diplôme qui vraiment le titre de journaliste, c'est quand on travaille, c'est la carte de presse. À partir de ce moment-là, on peut vraiment dire que on est journaliste comme les autres parce qu'on a un petit document qui nous permet d'entrer où tout le monde ne veut pas entrer. C'est une sorte de, un petit passe-droit en quelque sorte.
Comment étaient les épreuves?
Alors, les épreuves, on les a préparées, moi, enfin, comme d'autres camarades, on les a préparées avec l'association La Chance, qui s'appelait à l'époque La Chance au concours, qui aujourd'hui s'appelle La Chance pour la diversité dans les médias. Et donc, on prépare il y a des quiz d'actualité, enfin, des questions d'actualité sur toute l'année, des questions de culture générale, des questions de mathématiques, de français, d'anglais. Les épreuves sont un peu difficiles parce que c'est un concours. Et le principe du concours, c'est que c'est celui qui a la meilleure note qui passe. Quand on est face à 1500 candidats et qu'on sait qu'à la fin, ils vont prendre limite 50 ou 40, c'est 40, parfois ils en prennent 45, mais en principe c'est 40, eh bien on a intérêt à être parmi les meilleurs. Et donc la difficulté du concours est principalement là. C'est pas celui qui a la moyenne, c'est celui qui a la meilleure note.
Combien d'années d'études faut-il pour être journaliste ?
Il n'y a pas vraiment de règle. Il faut au moins 5 ans. Il faut au moins 5 ans. Alors moi, j'en ai fait plus que 5. J'en ai fait 7. Bon, parce que j'aimais bien les études. On fait une première. On fait 3 ans de ce qu'on veut. On peut faire 3 ans de droit, 3 ans de mathématiques, 3 ans d'ingénieur, de génie civil ou autre. Et puis après ces 3 ans, on passe le concours pour entrer en école de journalisme, mais c'est à partir de 3 ans, donc on va dire minimum 5 ans. 5 ans après le baccalauréat, oui.
Quand vous étiez petit, voulez-vous être journaliste?
Cette question me ramène un peu au moment du concours, des oraux des concours, parce qu'effectivement, les concours, il y a une première partie qui est l'écrit, on passe les écrits, et puis si on réussit les écrits, on est convoqué pour passer les oraux. Donc moi, c'était une question qu'on me posait beaucoup à l'oral, dans les oraux de concours, c'est depuis quand avez-vous eu envie d'être journaliste? Donc moi, depuis l'enfance, effectivement, mes parents écoutaient beaucoup la radio. Et moi, de mon côté, je voulais... j'écoutais aussi. Et puis, dans ma chambre, je jouais au journaliste. J'avais mon petit micro et en papier et tout ça. Je faisais un petit peu l'idiot. Je voulais, depuis tout petit, je voulais comme ceux qui parlaient dans la radio. Je voulais être comme eux, je les entendais tout le temps, toute la journée, et je voulais être comme eux, donc depuis tout petit. Et puis petit à petit, je grandis et cette envie d'être journaliste ne m'a pas quitté parce que j'ai trouvé que c'était un métier intéressant, qu'on pouvait être utile, même si parfois les gens nous croient plus utiles qu'on est en réalité. Mais je pense que c'est un métier où on peut être utile.
Comment se sont passés vos débuts?
Les débuts étaient assez compliqués parce que les médias sont pas faciles. C'est pas facile d'y entrer, c'est pas facile d'y rester. Moi, j'avais déjà cherché un stage, c'était difficile. Et puis j'ai fini par trouver, heureusement, j'ai trouvé à RTL, une radio que les parents connaissent. Et la radio, il y a cette particularité qu'il faut savoir poser sa voix. Comment on parle à la radio? C'est quand on commence à travailler qu'on apprend. Avec les collègues, à poser ça. Moi, j'ai un collègue qui, un vendredi soir, est resté avec moi dans les cabines d'enregistrement, là où on s'enregistre pour les commentaires des reportages. Et il est resté avec moi à peu près 1h30 pour un petit commentaire que j'avais à faire de 50 secondes. Il a eu la patience de rester avec moi pour m'apprendre comment on met un point, dans la voix, comment on met une virgule, comment on met un deux points. En fait, ça s'apprend sur le terrain. Et quand on arrive face aux gens, on a une crédibilité à avoir aussi. Quand on ne sait pas encore faire, c'est difficile. C'est difficile. Donc, il faut apprendre vite. Il faut apprendre vite.
Avez-vous eu des moqueries ou pas?
Quand on s'en sort pas au début, bon, mieux vaut le prendre avec de l'humour. Et mais des moqueries, de la méchanceté, j'en ai pas. J'ai eu des surprises, parce que étant aveugle, il m'est arrivé d'arriver sur un lieu de tournage où je fais mon reportage, où la personne me dit ah mais c'est vous. Ah, ben vous êtes journaliste. Ah oui, d'accord, ils en ont des comme vous maintenant. Bon. Et donc, c'est des surprises, des personnes qui ne s'attendaient pas à ce que ça soit moi, le journaliste. Mais des moqueries, non. J'en ai pas. En tout cas, j'ai pas assez fait attention, soit je n'étais pas assez sensible à la moquerie. Et puis, c'est mieux parce que quand on se rend compte qu'il y a des moqueries, on devient un peu plus irritable. Déjà, pour nous, c'est pas bien. Donc, bon, tant mieux, j'en ai pas aperçu.
Quel âge avez-vous ?
J'ai aujourd'hui 34 ans. Bon, un peu plus vieux que toi, un tout petit peu.
Depuis combien de temps êtes-vous journaliste ?
J'ai commencé à 26 ans. Si, 26 ans. J'ai eu ma première carte de presse, je devais avoir 26 encore. Ouais, j'étais encore dans ma 26e année. Donc, j'avais 26 ans quand j'ai commencé à travailler vraiment et quand j'ai eu ma première carte de presse, donc il y a 8 ans.
Comment avez-vous obtenu votre carte de presse ?
La carte de presse, on l'a, on peut l'avoir au bout de 3 mois de travail où on a une fiche de paie et tout ce qui s'ensuit, qui prouve bien, qui certifie qu'on travaille comme journaliste.
Reportage dans mon cartable.
Dans quel média travaillez-vous ?
Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle couramment un pigiste, c'est-à-dire que je ne travaille pas pour un média en particulier, mais je travaille pour plusieurs médias, notamment de la presse écrite. J'ai travaillé pour 20 minutes et autres.
RTL est votre première radio ?
Non, parce que j'ai fait mon premier stage à une radio qui s'appelle Vivre FM. C'est une radio qui est spécialisée sur des différents types de handicap, qui aborde des sujets liés au handicap. Donc j'ai fait mon premier stage là-bas. Et puis c'était un stage c'était un stage de deux mois. Et puis une fois cela étant fait, bon, je suis entré à RTL, qui est la radio que j'écoutais depuis toujours et une radio que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Combien d'heures travaillez-vous par jour ?
On sait quand la journée commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'achève. Mais en tout cas, c'est pas 7 heures. C'est pas 7 heures, c'est pas 8 heures. Moi, il m'est arrivé, bon, je peux travailler 8 heures, comme il m'est arrivé déjà de travailler 11 heures dans la journée, parce qu'il y avait une actualité et il faut couvrir l'actualité. Donc, on travaille au rythme de l'actualité. Quand il y en a beaucoup, on travaille beaucoup. Quand il n'y en a pas beaucoup, ben, on fait le minimum, c'est-à-dire 8 heures, 7 heures, tout au moins.
Quel est le salaire d'un journaliste ?
Là encore, c'est comme les heures. On sait où on commence, on ne sait pas où on finit. Alors, il y a des journalistes qui gagnent, le minimum. Hein. Si on est pigiste, si on ne travaille pas le mois, on ne gagne rien. Si on est pigiste, on peut gagner, par exemple, 1000 euros ou 2000, voire même parfois 3000 euros le mois. Et puis, si on est star, on est très célèbre, on fait le 20h d'une grande chaîne, on peut aller jusqu'à... moi, je connais quelqu'un qui gagnait 30 000 euros par mois, par exemple.
Et c'est un métier difficile ?
C'est difficile. Alors, quand on aime, comme on dit, quand on aime, on compte pas, mais c'est un métier difficile. Et très stimulant aussi, parce que on n'a pas d'heure pour se coucher, on n'a pas d'heure pour se lever. Je connais des gens qui ont été réveillés à 3 heures du matin pour aller couvrir un événement. Je connais des gens qui avaient prévu de fêter leur anniversaire de mariage le soir, et puis en milieu de la journée, on leur a dit « Allez, maintenant tu te prépares parce que tu dois partir en Syrie ». Et donc, c'est l'imprévu, c'est aussi ça qui fait le charme du métier, c'est l'imprévu. Et puis, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut avoir autour de soi aussi des gens qui sont compréhensifs.
Qu'est-ce qui vous détend le plus dans ce travail ?
Moi, ce qui me détend le plus, c'est le montage. C'est le montage, c'est quand j'ai fini mon interview et là, j'arrive devant mon ordinateur, je mets le son et je suis en train de monter. Là, c'est là qu'on reconnaît les gens de radio. J'ai un plaisir fou à faire de mon montage, à couper, à découper, à recoller, etc. Ça me détend beaucoup. Et puis aussi, quand je parle aux gens, quand je discute avec les gens, là, j'oublie que je fais une interview, c'est une discussion pour moi. J'apprends, je découvre quelqu'un qui a quelque chose à m'apprendre. Et donc, là, je me détends. Ouais, c'est là aussi que c'est ce qui me détend aussi le plus.
D'Edison.
À quelle fréquence intervenez-vous à la radio ?
Ça dépend du sujet, parce que moi je m'occupe pas de tous les sujets. S'il y a un sujet, par exemple des manifestations liées à la réforme des retraites ou tout ça, vous allez plus entendre des journalistes qui s'occupent de ces sujets-là, qui sont sur des sujets d'actualité. Moi je m'occupe de tout ce qui est social, principalement. Donc s'il y a des événements sportifs, par exemple, pendant une Coupe du Monde, vous n'allez pas m'entendre souvent. S'il y a un sujet lié au terrorisme et tout ça, vous n'allez pas m'entendre souvent. Mais quand c'est mon domaine, j'interviens beaucoup.
Quel est l'intérêt de votre métier ?
L'intérêt du journalisme, alors, ça permet d'informer les gens, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est d'aller chercher l'information là où elle est et de l'emmener là où sont les gens. Afin que les gens sachent, pour que tout le monde sache ce qu'il se passe. C'est aussi de révéler les informations, c'est de chercher, c'est d'enquêter sur des faits, c'est de permettre aux gens de comprendre la société dans laquelle ils vivent et de permettre à chacun de pouvoir se faire une opinion sur n'importe, par exemple, sur la politique, sur la justice, sur les différents faits comme ça de société, de permettre aux gens de savoir. Et en sachant, ils peuvent se décider, ils peuvent avoir une opinion.
Avez-vous le trac en parlant à la radio ?
Moi, j'avais un collègue qui disait, c'est un vieux collègue, enfin, il n'est pas si vieux que ça, mais il fait de la radio depuis plus de 20 ans. Il me disait, le jour où tu n'as plus le trac, quand tu commences à parler, ben, c'est qu'il faut changer de métier. Donc, on a toujours le trac. Parce que... Je me dis, il y a des millions de personnes, ça dépend de la radio, il y a des centaines de milliers de personnes qui m'écoutent. Mais quand on commence, on est dans l'ambiance, ben on n'a plus le trac. Et puis, c'est un trac aussi productif, ça nous pousse à nous dépasser, à être conscient que ben, il y a des gens qui nous écoutent. On a une responsabilité, il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Est-ce que vos interviews sont en direct ?
Ça dépend. J'en ai pas eu beaucoup d'interviews en direct. Non, c'est toujours à diffuser après, qu'on appelle le différé. Et donc, j'ai fini mon interview. S'il y a du montage à faire, je fais mon montage et après, c'est diffusé. Il y a des faux directs, c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens que c'est direct. Mais pas trop. J'ai pas beaucoup d'interviews en direct.
Est-ce que tu es parti loin de France pour faire une interview ?
Je suis parti assez loin. Je suis allé en République dominicaine pour faire une interview. Je suis allé au Canada pour faire des interviews. Je suis aussi allé au Vietnam. Donc, j'ai fait un petit peu de chemin. Puis après, j'ai fait plus près de chez nous. Hein. Je suis allé en Angleterre, notamment.
Quelle est la star la plus connue que vous avez interviewée ?
J'ai interviewé Christian Carambeu, et un ancien champion de 98. Après, en tant que personnalité connue, j'ai interviewé Bernadette Chirac.
Quelle est l'interview dont vous êtes le plus fier?
Je ne sais pas trop. Peut-être... J'ai fait une interview au Vietnam d'un monsieur qui s'occupait d'enfants orphelins, d'un Français. C'était un ancien militaire qui est parti au Vietnam pour faire de l'humanitaire, parce qu'il était à la retraite maintenant. Et donc, aujourd'hui, il s'occupe des enfants du Mekong au Vietnam. Ça avait du sens parce que c'est de l'humanitaire. Il y a des enfants qui sont très, très, très pauvres. Et puis, il y a des enfants de rue. Et puis, le Vietnam, ce n'est pas un pays riche. Hein. Et donc, son travail m'avait l'air très, très utile pour ces enfants de là-bas.
Est-ce que le fait d'être malvoyant a été un obstacle dans votre carrière?
En tout cas, ça a compliqué des choses, effectivement. Ça, ce serait mentir que de ne pas le reconnaître. Mais les obstacles, ma foi, sont faits pour être franchis. Donc, s'il y a un obstacle, on réfléchit à la façon de le franchir. Il faut savoir aussi se dépasser, c'est ce que j'essaie de faire.
Comment s'appelle l'association qui vous a fait venir dans notre classe?
La Chance pour la diversité dans les médias, qui aide les boursiers, les personnes qui sont boursiers de l'éducation, de l'enseignement supérieur, à passer les concours de journalisme qui préparent à tous les niveaux à passer les concours des écoles de journalisme. La Chance pour la diversité dans les médias.
Reportage dans mon cartable.
Au revoir.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand avec l'accompagnement technique de Xavier Lecomte que je remercie très chaleureusement. Cette émission est consacrée à Maïlys Bessery et à son troisième livre La nourrice de Francis Bacon, un roman qui est paru aux éditions Gallimard et qui a remporté le 14 novembre dernier le prix des écrivains du Sud. Mais je vous laisse de ce pas en présence de l'auteur qui, avec sa propre palette de mots, va tout vous dire sur l'enfance de Francis Bacon, un artiste haut en couleur dont la vie est aussi un roman. Maïlys Bessery, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier La nourrice de Francis Bacon, un roman, le troisième roman, je crois, aux éditions Gallimard. Ma première question, j'ai eu l'impression que c'était comme une sorte de trilogie que vous faites, une trilogie irlandaise, puisque moi, j'avais lu le tiers-temps qui était consacré à Samuel Beckett, et je sais que vous avez écrit sur Yeats. Donc, est-ce que c'est volontaire de faire comme ça un triptyque romanesque autour de l'Irlande ?
Oui, l'idée, c'était d'utiliser un peu cette connaissance et cet amour que j'ai pour l'Irlande et pour la littérature irlandaise, et d'utiliser ces grandes figures, alors deux figures d'écrivains, le dramaturge Samuel Beckett, qui évidemment faisait facilement le pont entre la France et l'Irlande, et permettait de raconter les deux, en lui rendant, c'était peut-être la particularité de ce projet, son irlandité, hein, du fond de sa maison de retraite parisienne, dans ses derniers jours, le ramener à la fois à sa vie en France, mais aussi à ses racines irlandaises et à toute cette culture littéraire dont il est le fruit aussi. Le deuxième roman était consacré à W.B. Yeats, donc Yeats qui est prix Nobel lui aussi littérature comme Beckett, le grand poète irlandais, on a dit plus grand poète de langue anglaise pendant un certain temps, hein, c'est un grand homme de lettres, mais aussi avec ce volet politique qui permettait de raconter l'histoire de l'indépendance de l'Irlande. Et Yeats faisait aussi un lien, ce qui était très important pour moi, en tout cas dans mon projet d'écriture, entre la France et l'Irlande, puisqu'il a eu le bon goût de mourir en France, à Roquebrune-Cap-Martin, et d'être enterré dans ce magnifique cimetière qui touche la Méditerranée, qui est aussi le cimetière du Corbusier. Et de là, son corps a, d'une certaine manière, disparu. Et ça a été le fruit de cette deuxième intrigue. Alors l'idée de ce troisième projet, c'est effectivement le troisième volet, triptyque. C'est vrai que le terme de triptyque correspond peut-être un peu mieux à celui de mon projet que celui de trilogie, parce que pour moi, c'est pas trois livres liés les uns aux autres directement, comme une sorte de suite les uns aux autres, mais c'est trois livres imprégnés d'Irlande, de la couleur du pays, de sa couleur politique aussi, de ce qu'elle a pu traverser d'un point de vue religieux et politique. Et en même temps, ce sont trois histoires individuelles, trois histoires d'artistes. Ce qui m'intéressait avec Francis Bacon, c'était évidemment qu'est-ce qu'on fait en termes d'écriture quand on travaille avec de la peinture, hein, comment est-ce que je pourrais écrire dans une forme qui pourrait malgré tout rendre hommage à la peinture, hein, dans un même bain que celui de la peinture. Mais c'était aussi l'idée de raconter l'histoire de l'ennemi d'une certaine façon, puisqu'il est anglais d'Irlande, anglo-irlandais, qu'il appartient à cette minorité justement au début du XXe siècle, qui est une minorité à la fois de gens qui ont colonisé l'Irlande et qui aussi font face à des violences certaines, puisqu'il y en a des deux côtés dans cette période-là. Donc c'est l'histoire d'un peintre de la violence qui lui-même a traversé la violence.